20h, 21h, France Info, les informés.
Guillaume Caour.
Les informer. Alors pourquoi Ben Smith, le nouveau directeur d'Air France, irrite-t-il tant les syndicats? Eh bien peut-être parce qu'il est... Peut-être pas parce qu'il est étranger, comme on l'a dit, mais peut-être parce qu'il a réussi à créer quelque chose qui inquiète chez Air France, une filiale low cost. En tout cas, son salaire fait des vagues, d'autant plus qu'en réalité, vous allez le découvrir, il va falloir payer non pas un patron, mais deux patrons. Nous allons aussi conclure cette semaine tragique pour l'Italie avec cette surenchère de déclarations des deux leaders du gouvernement populiste. Alors sont-ils à la hauteur de l'épreuve? Dernier rebondissement, c'est cette soirée festive de Matteo Salvini, le soir de la catastrophe. Et puis à Paris, c'est peut-être le coup d'envoi de la campagne pour les municipales. Un rival inattendu pour Anne Hidalgo, c'est le forain Marcel Campion. Les informer ce soir avec Virginie Lepetit, chef d'édition à Courrier International. Bonsoir.
Bonsoir.
Étienne Girard, journaliste politique à Marianne. Bonsoir, bonsoir à vous aussi. Flore Santisteban, maître de conférence à Sciences Po Paris, chercheuse au CEVIPOF.
Bonsoir.
Bonsoir. Et Jade Zahab, vous êtes essayiste et président du Parlement des étudiants.
Bonsoir.
Bienvenue à tous les quatre. Il y a donc un point du CV de Ben Smith qui préoccupe les syndicats, c'est la création de Rouge. Rouge, c'est une branche low cost chez Air Canada, d'autant plus préoccupant que c'est une des compétences qui a tapé dans l'œil du conseil d'administration. Vincent Salle, co-secrétaire général du syndicat CGT Air France.
Nous, c'est quand même une inquiétude, on pense qu'il est là pour faire grossir les low cost au sein du groupe Air France au détriment de la maison mère Air France.
Mais le virage du low cost, il est déjà pris avec, Transavia.
Oui, il est déjà pris, mais il reste, grâce au syndicat, maintenu, contenu, on va dire. Nous, on pense qu'il faut une politique d'investissement et de croissance d'Air France et non pas des low cost. Parce que si on pense que les salariés sont prêts à être mal payés, travailler à outrance, dans des mauvaises conditions de travail, à vie, sans rien dire, les directions se trompent et c'est là où on pense que le low cost n'a pas d'avenir. D'ailleurs, on le voit avec l'organisation des salariés qui se passe chez Ryanair, oui, où ils en ont assez d'être mal payés.
Vincent Salle, qui était donc l'invité de la matinale de France Info, Jada, ils ont raison d'avoir peur?
Alors, c'est très symptomatique cette réaction qu'on vient d'entendre du syndicalisme à la française. Et j'entendais aujourd'hui toute la journée des réactions du côté néerlandais, puisqu'on parle du groupe Air France KLM, et les syndicats en Hollande ont accueilli en tout cas la nomination de M. Smith avec une forme d'attente, avec une forme de bienveillance, même en disant nous avons besoin de ce new public management qui a été mis en œuvre au Canada.
Donc et pas du tout la même approche alors.
Et pas du tout la même approche, et ce qui est symptomatique, bien sûr, il va falloir que M. Smith arrive avec un projet, avec un programme, et il prendra ses fonctions d'ici au 30 septembre, donc d'ici là, je pense qu'il il présentera aux salariés et de manière générale au gouvernement un projet et une direction. Mais ce qu'on entend là de la part de la CGT, c'est très symptomatique de ce qui se fait en France. On l'a vu beaucoup au moment aussi des mobilisations sur le projet de loi ferroviaire. C'est que les syndicats, avant même qu'on discute de ce qui va être mis en œuvre, sont déjà sur la réserve. Ils sont dans leur rôle. Moi, je dis, laissons Monsieur Smith arriver. Voyons quelle est sa vision,
quelle est sa stratégie.
Parce que un homme, c'est bien. Il connaît le secteur. Et la ministre des Transports l'a dit aujourd'hui. C'est bien. Il connaît. Maintenant, voyons voir ce qu'il a à proposer.
Mais est-ce que le low cost, c'est un axe de développement nécessaire, indispensable aujourd'hui, qui doit être approfondi? Certes, il y a Transavia notamment. Mais est-ce qu'il faut aller plus loin, selon vous, chez Air France?
Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des marges, le low cost, c'est quelque chose de très intéressant.
Un billet. C'est ce qui gagne de l'argent aujourd'hui sur le moyen courrier en Europe.
Tous les bénéfices dans les courts moyens courriers aujourd'hui, là, les plus gros bénéfices sont faits par les compagnies low cost. Donc il y a un vrai intérêt pour Air France KLM à développer.
Mais c'est vrai que socialement, c'est plus dur à vivre.
Exactement. L'intérêt pour l'entreprise, il est certain.
Pour le client,
pour le client, il est certain. Pour le consommateur, il est évident. Pour les salariés.
Enfin, pas toujours, hein.
Expérience vécue récemment. Le service client, etc. Ouais. En tout cas, au niveau du prix, l'intérêt est évident. En revanche, au niveau des conditions sociales, là, l'intérêt pour les salariés d'Air France KLM, il est nul.
Il est nul, si ce n'est de sauver l'emploi, peut-être, à terme.
D'accord, mais on n'en est pas là. Les salariés d'Air France ne sont pas aujourd'hui confrontés à un plan social. Mmh. Donc, ils ne sont pas en situation d'accepter un emploi chez Transavia à n'importe quelle condition.
Enfin, on n'est pas non plus chez une entreprise qui pète la forme, quoi.
bien sûr, mais les torts sont partagés. On peut dire la grève a coûté énormément d'argent. Hein. Même avant la grève, Air France ne gagnait pas énormément d'argent. Donc moi, je pense qu'ils sont dans leur rôle en montrant des réticences face au profil, en effet, low cost compatible et assez cost killer de leurs nouveaux dirigeants.
Virginie Le Petit.
Oui, alors moi, c'est, je voulais revenir sur la différence de réaction entre les syndicats néerlandais et les syndicats français. Ce que craignent aussi les syndicats français, et il y a eu des mails qui ont circulé dans ce sens de la part des syndicats français, c'est justement une réallocation d'un certain nombre de capacités vers les Pays-Bas, et notamment sur l'aéroport, bon, je vais le prononcer très mal, mais de Schiphol, enfin l'aéroport principal des Pays-Bas, qui coûte moins cher que les aéroports de Paris en termes d'exploitation pour la compagnie. Donc effectivement, ça peut aussi expliquer, outre une approche, on va dire, plus philosophique.
Juste
ça
pour
peut
comprendre, c'est le principe du hub, c'est-à-dire d'envoyer les oui, vols court-courrier, courte distance, vers Roissy ou Schiphol.
Voilà.
Je ne sais pas si on le prononce bien. Et ensuite, pour envoyer tout ce monde-là dans le monde entier. Quoi.
Exactement. Et ça peut expliquer. Bon, il y a une philosophie différente, effectivement, du syndicalisme entre les Pays-Bas et la France, c'est indéniable. Mais ça peut aussi expliquer des craintes tout à fait différente de la part de ces syndicats.
On poursuit ce débat sur Air France avec cet enjeu majeur pour relancer cette compagnie dans les prochaines minutes avec la suite des informés de France Info. 20h10, Augustin Rivet, toute l'info.
Le Premier ministre espagnol appelle à l'unité nationale contre le terrorisme, discours à Barcelone, un an jour pour jour après l'attentat des Ramblas, 14 morts renversés par une camionnette plus une 15e victime tuée pour s'emparer de sa voiture. L'attaque avait été revendiquée par Daesh. Demain, l'Italie rendra hommage aux 38 morts de l'effondrement du pont de Gênes. Une cérémonie religieuse est prévue dans la ville en présence de la ministre française des Affaires européennes, Nathalie Loiseau. 4 Français figurent parmi les victimes et 5 personnes sont toujours portées disparues. Une agression au couteau cet après-midi dans le tramway de Montpellier. 2 hommes ont été blessés, l'un à la cuisse, l'autre au thorax. Leurs jours ne sont pas en danger. Un suspect a été arrêté, on ne connaît pas ses motivations. Une information judiciaire ouverte dans l'Aisne. Le chauffeur du camion hier soir utilisait son téléphone juste avant de percuter l'autocar stationné sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A4. Autocar d'un centre aéré, 3 enfants sont toujours hospitalisés. Le conducteur du camion est maintenu en garde à vue. Donald Trump assistera aux commémorations du centenaire de l'armistice de 1918 en France. Le président américain l'a annoncé aujourd'hui tout en critiquant la municipalité de Washington. Il espérait qu'elle organise ce jour-là un défilé militaire, mais le coût de l'opération est finalement trop élevé. Et puis l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, mis à pied par son club avant un probable licenciement. Sanction pour s'être emporté hier face à la presse contre une décision de la direction de l'équipe de football. Gustavo Poyet n'a pas apprécié que l'un de ses attaquants soit transféré à Montpellier sans son accord.
France Info. 20h, 21h, les informés.
Guillaume Caour.
Autour de la table des informés, il y a donc Jade Zahab du Parlement des étudiants, Flore Santisteban pour le CEVIPOF, Étienne Girard, Marianne et Virginie Le Petit, Courrier International, Air France, avec donc ce qui inquiète les syndicats, c'est ce profil très low-cost compatible du nouveau patron, Ben Smith. Flore Santisteban, est-ce que c'est quelque chose qui, d'après vous, sera un axe de développement au vu du profil du nouveau patron?
Oui, enfin c'est son expérience en tout cas. C'est vrai que donc la précédente compagnie Air Canada, il a fait ses preuves, il a réussi à développer l'entreprise, il a effectivement axé sur le low cost. Mais je voudrais peut-être simplement revenir sur ce qu'on a dit jusqu'à présent sur la philosophie du syndicalisme. Je trouve ça très surprenant que les syndicats appellent ou en tout cas menacent de faire grève avant même la prise de fonction de ce PDG.
Vous pensez qu'il faudrait une sorte de trêve, en quelque sorte?
Mais, oui, évidemment. Enfin,
on se donne 6 mois pour faire connaissance et on verra après.
C'est ça, exactement. Là, ça n'a pas de sens. On ne comprend pas. C'est insensé. Donc ça, c'est, le premier point. Le second point, c'est les conséquences de la grève Air France. On va sans doute revenir sur la rémunération de ce nouveau patron qui est quand même bien moins importante que, non pas le précédent, mais le prédécesseur, mais que ce que les patrons américains ou anglo-saxons touche. Donc bon, je dirais ça peut se discuter, mais il faut, quand vous recrutez quelqu'un, vous alignez sur ses prétentions salariales. Ouais. Celles de Ben Smith sont ce qu'elles sont, mais bon. Non, c'est surtout les conséquences de la grève. Je regardais cet après-midi que presque 335 millions d'euros avaient été perdus par Air France pendant cette grève. Et je ne vous parle même pas de l'atteinte à l'image de l'entreprise, qui est sans doute incommensurable, en tout cas à cette heure. Donc oui, réaction des syndicats très surprenante. Et effectivement, laissons à ce patron le temps de se mettre en place, d'agir. Et puis voilà.
Alors parlons justement de la rémunération de Ben Smith. Est-elle excessive ? Au total, il devrait toucher 4,2 millions d'euros. Donc entre le fixe, les bonus, etc., ça fait un package de cette somme-là. Ça veut dire une hausse de 226% comparé à son prédécesseur. Alors évidemment, ça fait polémique. Est-ce que cette rémunération est justifiée ? On va en parler. Mais d'abord, faut pas oublier que le prédécesseur était président et directeur. Alors que maintenant, lui, il va être président et directeur et qu'il y a une présidente au-dessus de lui. C'est ce que souligne le délégué CGT Vincent Salles.
On maintient des postes qui étaient voués à n'être qu'intérimaires. C'est-à-dire que la présidente non exécutive va avoir son poste maintenu, donc un salaire supplémentaire à maxima de 1,2 million d'euros. Donc on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est ces postes non exécutifs ? Est-ce que chez les salariés, il existe des mécaniciens non exécutifs, des pilotes non exécutifs ? Non, ça n'existe pas.
Alors vous êtes des informés non exécutifs, bienvenue autour de cette table. Qu'est-ce que vous pensez, ce point de vue de ce syndicaliste Vincent Salles ?
Mais c'est vrai que vis-à-vis du dialogue social, cette décision du conseil d'administration d'Air France KLM, il peut apparaître comme un pied de nez ou une provocation. Il faut rappeler que les syndicats, notamment les pilotes, demandaient des hausses de salaire de 5%. Réponse, il y a même eu un référendum.
C'est ce qui était demandé.
Pour eux, ça apparaît comme une vraie provocation de la part de la direction.
Mais je suis d'accord avec vous. Simplement, il faut quand même qu'on soit bien au clair sur la moyenne de la rémunération des pilotes chez Air France. On parle de 18 000 euros par mois pour des pilotes et de 13 000 euros pour des copilotes. Donc bon, là aussi, je pense que les revendications sont sans doute excessives.
Il n'y a pas que des pilotes à Air France.
Non, c'est vrai, mais ce sont eux qui appellent à la grève.
Absolument. Ouais. Mais au sein des syndicats, il y avait d'autres revendications, et notamment de corps moins bien payés de l'entreprise.
Notamment
Air France.
Le personnel au sol, ouais.
Exactement.
Qui a gelé ses salaires pendant de nombreuses années.
Exactement. Et donc on a eu une alliance entre les pilotes et le personnel au sol, assez étonnante d'ailleurs. Mais dans ce cadre-là, on peut quand même s'étonner de cette décision. Est-ce qu'on ne pouvait pas trouver un bon dirigeant au salaire du précédent, de M. Janaillac? Toute la question, elle est là. J'ai du mal à entendre l'argument qui est lancé, qui est de dire au même salaire que M. Janaillac, on ne trouvait personne.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voulez quelqu'un qui vient de l'aérien, vous cherchez dans ce domaine-là, et probablement que ce sont les prix, si je vous comprends bien, Flore Santistémon.
Ce que je comprends en fait de ce binôme qui se met en place, et c'est tout à fait classique dans les entreprises, c'est ce qu'on appelle le gardien du gardien. C'est-à-dire que vous avez un exécutif et vous avez quelqu'un qui contrôle, qui surveille, la gouvernance.
Ça va être simple, ça.
C'est la structure qui est en place dans énormément d'entreprises. Ils s'alignent. Air France s'aligne sur un grand, grand nombre d'entreprises internationales qui fonctionnent de cette façon-là.
Où vous avez donc un directeur, un président, qui est l'opérationnel. Et au-dessus, le président qui le surveille.
Exactement.
C'est ça.
Oui.
Ouais, d'accord. Ouais. Jadzab.
Mais là-dessus, la question des différentes réactions qu'il y a par rapport au montant du salaire me semble assez intéressante, parce qu'on voit encore une fois la dissension entre, d'un côté, les syndicats et de l'autre, j'allais dire, l'opinion publique et la société de manière générale. Depuis un certain nombre d'années, je pense que les Françaises, les Français, enfin, les observateurs de ce qui se passe dans le monde de l'entreprise ont vu et ont compris que les rémunérations des grands patrons sont très élevées. Une étude du cabinet Proxinvest disait qu'en moyenne, sur les 120 patrons des 120 plus grosses entreprises françaises gagnaient en moyenne 4 millions d'euros. Bien sûr, ensuite, c'est une très grosse somme et c'est beaucoup d'argent, il faut en avoir conscience. Mais ce qui me semble beaucoup plus intéressant et important dans le débat, et ça a été dit à l'instant, c'est que M. Smith s'est loué pour sa capacité à négocier et à créer du consensus. Est-ce qu'il va avoir... Pour ses salariés à qui il va dire, il faut que vous fassiez, s'il le dit, il va falloir que vous fassiez des efforts, qu'on réduise les budgets. Est-ce qu'il va avoir la légitimité et la confiance de ces personnes-là, sachant l'augmentation de salaire qu'il va y avoir? Là, à mon avis, ça risque d'être compliqué. Donc, encore une fois, attendons de voir les montants exacts, parce que là, on a des sommes qui sont sorties comme ça. Oui, bien sûr, c'est une grosse somme. elle est, j'allais dire, dans la moyenne des plus grands patrons. Ensuite, il faut voir quelle va être sa politique dans l'entreprise. S'il dit on augmente tout le monde, bon. Et malgré ça, on peut redresser l'entreprise, alors pourquoi pas ?
Virginie Petit.
Mais il n'y a pas que ça qui passe mal. Il y a le salaire, il y a le fait qu'on crée un poste, effectivement. Et il y a aussi le fait que ça se passe... Enfin, il y a le timing, hein, sur le pont du 15 août, un peu... Alors, après, il faut voir qui est de bonne foi, qui est de mauvaise foi. Mais les syndicats disent un peu quand même en mode furtif, hein, on va dire ça comme ça. Donc ça aussi, ça n'aide pas à ce que ça soit bien compris et en tout cas bien accepté. Et ce qui pourrait être intéressant de la part de Ben Smith, puisque c'est ce qu'il avait proposé à Air Canada, il avait proposé, ok, on gèle et vous faites un effort dans un premier temps, mais on indexera ensuite sur les résultats des augmentations conséquentes. Donc il pourrait aussi peut-être... se mettre de la partie s'il propose ce genre de choses à Air France, c'est-à-dire indexer son propre salaire.
Alors justement, tout à l'heure, vous nous disiez, Fleur Saint-Estève, en préparant cette émission, vous avez regardé comment il a travaillé à Air Canada, notamment pour monter cet accord avec le personnel. C'est un accord qui est très long, c'est un accord qui porte sur une dizaine d'années, je crois, hein, c'est ça ? C'est pas ça ?
Oui, si, tout à fait. C'est un accord qui est très long. C'est une méthode nouvelle.
Parce que, je le souligne parce qu'en France, en général, les accords, c'est sur 2 ans.
Oui, c'est des accords provisoires ou des accords...
Le fait de travailler sur 10 ans, ça change tout ?
Ben, ça change tout. Disons que ça donne une perspective plus intéressante. Ça permet aussi aux salariés de se projeter. Ça permet de voir si les engagements sont tenus sur le long terme. Ça permet d'instaurer une vraie relation de confiance et un dialogue social de qualité. Donc oui, c'est plutôt une bonne méthode.
Dans quelques instants, nous allons aborder ce dernier volet qui est très important pour Air France. Est-ce que l'État doit rester au capital de l'entreprise ? Est-ce que c'est un atout ? Est-ce que c'est une faiblesse pour son développement ? À tout de suite, la suite des informés. 20h20, toute l'info, Augustin arrivé.
Les lumières s'éteindront demain soir autour de plusieurs monuments de Rome. Journée de deuil national en Italie en mémoire des 38 victimes de l'effondrement du pont de Gênes. Une cérémonie religieuse sera organisée dans la matinée, célébrée par l'archevêque de Milan. Le président italien sera présent, mais toutes les familles de victimes n'ont pas souhaité y assister. Les obsèques de Joël Robuchon, c'était la semaine dernière dans l'intimité, mais un hommage était rendu à Poitiers aujourd'hui par plusieurs centaines de chefs cuisiniers. Cérémonie en la cathédrale de cette ville dont il était originaire. Joël Robuchon avait 73 ans. Les députés pakistanais ont choisi un ancien champion de cricket comme premier ministre. Il s'appelle Imran Khan. Il était soutenu par certains généraux de l'armée. Il porte un programme orienté sur la lutte contre la corruption et contre la pauvreté. La Turquie ne cède pas devant les menaces de nouvelles sanctions américaines. Ankara a refusé aujourd'hui de libérer le pasteur américain Andrew Brunson. Il est assigné à résidence depuis 2 ans, accusé d'espionnage et de terrorisme. Le festival de la Route du Rock investit à nouveau ce soir le fort de Saint-Père près de Saint-Malo, avec cette année dans la programmation Étienne Dao, Charlotte Gainsbourg et Patty Smith. Et puis le début de la deuxième journée de Ligue 1 de football ce soir. Reims contre Lyon, ce sera à 20h45. Dimanche, les Girondins se déplaceront à Toulouse sans leur entraîneur bordelais. Gustavo Poyet a été mis à pied pour une semaine pour avoir critiqué un transfert de joueurs.
France Info.
20h-21h, les informés.
Guillaume Caour.
Les informés avec Virginie Lepetit, Étienne Girard, Flore Saint-Estève et Jade Zahab. Avec donc Air France, dernier volet de notre débat ce soir au cœur des informés, est-ce que l'État doit rester au capital ? Alors je vous pose cette question parce que hier, le ministre de l'économie a souhaité la bienvenue au nouveau directeur général. L'État a 14% du capital, ça fait à peu près 23% des droits de vote. Est-ce que c'est un atout ou est-ce que c'est un frein au développement d'Air France ? Jade Zahab.
Je pense que c'est important. On parlait tout à l'heure C'est un atout. On parlait du fait tout à l'heure qu'il y avait une crainte sur l'idée que si éventuellement on redirigerait un certain nombre des emplois vers Amsterdam, et le nom de l'aéroport que je n'essaierai pas de prononcer. Je pense que là, si l'État détenant 14% reste au capital, c'est le rôle de l'État français, c'est le rôle de la ministre des Transports, et du gouvernement de défendre et de peser dans les choix qui seront faits par le monsieur Smith.
C'est une sorte de protection de conserver Air France comme une société franco-française.
Bien sûr, parce que je pense que Air France aujourd'hui c'est l'héritage d'une histoire, c'est une marque aussi, la France à l'étranger, il faut en avoir conscience. 14%, c'est pas à mon avis. Il reste quand même tout le reste, c'est-à-dire 86%.
Si je pose la question, c'est parce que on le voit à chaque difficulté sociale, le personnel se tourne vers l'État en disant bon bah ça coince, arbitrer.
Est-ce qu'on peut gérer une compagnie dans ces conditions?
Mais c'est normal que le personnel se tourne vers l'État, parce que l'État se tourne aussi vers Air France pour un certain nombre de choses, et notamment pour reconduire des gens en situation irrégulière dans leur pays, pour également travailler avec les ambassades. Air France a un pôle sûreté qui travaille avec les ambassades de France à l'étranger. Donc il y a quand même...
Et puis aussi pour assurer des lignes qui ne sont pas nécessairement des lignes rentables, mais qui permettent d'avoir une certaine forme de continuité du territoire.
Voilà, et que l'État français demande à Air France d'assurer. Donc il y a des missions qui sont menées par Air France, qui sont des missions, on va dire, étatiques. Donc, bien sûr que, moi, ça me paraît légitime qu'à ce moment-là, les salariés disent, nous demandons à l'État de nous écouter. C'est le minimum.
Fleur Santi-Stéban.
Oui, alors bon, c'est vrai que ces 14% permettent à l'État d'avoir ce qu'on appelle une minorité de blocage. Donc, ça va pas permettre de prendre des décisions, mais ça va permettre de les empêcher. Donc, c'est une forme de droit de veto qui peut être effectivement protecteur pour nos intérêts. Ça, c'est un premier point. Ensuite, bon, en appeler à l'État pour arbitrer, je suis pas sûre que l'État soit dans le grand secours en ce moment pour les salariés d'Air France. J'ai vu les déclarations de Bruno Le Maire, notamment, qui est très critique vis-à-vis de l'appel à la grève des pilotes. On va peut-être pas revenir là-dessus, mais donc oui, l'État pas en position d'arbitre, mais en position de contrôle.
Parce qu'il a été question là que l'État sorte du capital. Oui. Il en a été question là durant ces trois derniers mois. Non, n'êtes
oui,
pas d'accord.
Si, il en a été question, mais de toute façon, c'était pas pertinent au-delà du choix philosophique, parce qu'actuellement les actions d'Air France sont au plus bas. Et donc ouais, si l'État
ça rapporterait des clopes nettes.
Exactement, si l'État se retirait, ce serait une très mauvaise opération.
C'est pas une opération de bon père de famille, comme on dit.
Pour le coup, absolument pas. Donc de toute façon, le contexte ne permet pas d'envisager à court terme, une sortie de l'État de l'entreprise.
Allez, avant les infos et la météo de 20h30, Virginie Lepetit, vous vouliez qu'on revienne un instant sur le profil de Ben Smith, et notamment sur sa manière de manager et de ses relations sociales.
Oui, quand il a conclu ces fameux accords qui ont été qualifiés d'historiques à l'époque
à
Air Canada.
C'était quand ça? C'était au début des années 2000, c'est ça?
C'était, alors il y a eu en 2012 un durcissement du gouvernement, il y avait eu des grèves de pilotes et le Parlement canadien a sévi en disant les grèves ne seront plus autorisées, ça a été très très dur, et il est arrivé lui après cette période en disant bon, on va négocier. Donc on lui avait quand même bien préparé le terrain, et il a fait effectivement un accord historique qui à la fois encadrait la méthode des négociations et qui courait sur 10 ans. Et il a complètement assumé ce côté 10 ans. Il a dit bon, maintenant qu'on a négocié pour 10 ans, on va pouvoir se consacrer à la stratégie et à l'investissement. Et il le dit très clairement dans un certain nombre d'interviews. Il dit nous sommes tranquilles, mais nous, les salariés et l'entreprise, pour passer à autre chose et effectivement laisser tout ça derrière nous. Donc c'est vrai que ces accords, je pense que il y a son expérience à la fois sur le low cost, mais quand on l'a recruté, on est venu le chercher pour sa capacité à diriger des négociations. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ça sera facile, mais au moins, il y a cette expérience-là.
Jade Dab, ce profil-là, quand on voit la difficulté qu'ont eu les précédents managers à diriger Air France, est-ce que ça vous paraît suffisant?
Alors, c'est... Disons qu'il a toutes les armes pour, en tout cas, essayer de mener le combat. Ça sera certainement pas facile, parce qu'il y a une forme de résistance. Elle est normale. On est en France, les salariés ont des droits, et le new public management, c'est-à-dire cette idée qu'en fait, on peut tout co-diriger, c'est une bonne idée, et il faut qu'il y ait un échange qui se fasse entre le haut de la pyramide et les gens qui sont sur le terrain. Mais effectivement, ça sera pas facile. Et l'histoire de ce sujet sur sa rémunération n'est certainement pas quelque chose qui facilitera sa première approche quand il va aller se présenter avec un projet. Donc il faut attendre de voir quel sera le contenu. Mais vu son passif, j'allais dire, il a toutes les armes pour le faire, et on souhaite pour Air France que ça fonctionne.
Dans les prochaines minutes, nous allons développer sur France Info d'autres sujets de l'actualité, avec d'abord, après la catastrophe de Gênes, quelles conséquences politiques? Nous allons aussi nous pencher sur un anniversaire, c'est celui d'une star de la chanson qui hier s'est fait voler la vedette par Aretha Franklin. Il s'agit de Madonna, qui a fêté hier ses 60 ans à Marrakech. Alors qu'est-ce qu'elle a contribué à changer dans la société? Nous allons nous interroger à ce sujet dans les prochaines minutes sur France Info. Et puis un candidat assez inattendu, une liste assez inattendue pour prendre Paris. Il s'agit de Marcel Campion. Marcel Campion, c'est celui qui installe tous les ans, qui installait sa grand roue et son marché de Noël, et qui s'est fait dégager par la mairie de Paris et par Anne Hidalgo. Sa vengeance, c'est d'être candidat à la mairie de Paris. A tout de suite pour la suite des informés. Tout de suite la météo et les infos.
Ouverture de la saison 2018-2019 de l'Auditorium de Radio France.
Le jeudi 13 septembre, Emmanuel Krivine inaugure son intégrale des symphonies de Brahms avec l'Orchestre National de France et invite le pianiste Bertrand Chamaillou dans le 5e concerto de Saint-Saëns.
Le vendredi 14 septembre, Mico Franck dirige la maîtrise et l'Orchestre Philharmonique de Radio France dans un florilège de musique française. Berlioz, Chausson, Ravel, Matalon et Debussy.
Réservation maisondelaradio.fr.
La nouvelle saison des concerts de Radio France est ouverte.
La météo, Sébastien Léas.
Retour au calme pour ce début de week-end, même si quelques averses peuvent se produire demain matin en Midi-Pyrénées, voire sur le centre-est. Le soleil sera généreux dès le matin autour de la Méditerranée et entre le sud-Bretagne, le Poitou-Charente, jusqu'en Lorraine, au bassin parisien et à l'est des Hauts-de-France. Le sud-ouest aura aussi de belles éclaircies, alors que le reste du pays verra un ciel plus nébuleux. Progressivement, le soleil va gagner du terrain, brillant généreusement jusqu'au nord-est, à l'Auvergne et à la Nouvelle-Aquitaine demain après-midi. Entre le nord-Bretagne, la Normandie et le nord-Pas-de-Calais, la couche nuageuse aura parfois du mal à se morceler. Et quelques plaques de grisaille peuvent même rester tenaces demain après-midi, notamment près des côtes de la Manche. Temps plus instable du Jura aux Alpes avec la reprise d'averses localement orageuses l'après-midi. Avec ce temps plutôt ensoleillé, les températures repartent à la hausse. 26 degrés à Nantes, Nancy et Clermont-Ferrand. 27 degrés pour Paris, Bourges et Toulouse. 28 degrés à Strasbourg, Bordeaux et Lyon. Et jusqu'à 32 degrés à Montpellier et Marseille. Ambiance un peu plus fraîche sur le nord-ouest avec 22 degrés pour Caen, Saint-Brieuc et Dunkerque.
Vous êtes sur France Info, il est 20h30.
France Info.
De poids, ouvrez l'info.
Toute l'info, Augustin, arrivé.
Le dossier avait été classé sans suite par le parquet de Paris en janvier 2017. Il est finalement relancé. L'affaire Morandini, ses castings passés par de jeunes acteurs dénudés. Laurent Doulsan, un juge d'instruction, a été désigné pour relancer l'enquête.
Dans ce dossier, l'animateur de télévision est poursuivi pour des faits de harcèlement sexuel et de travail dissimulé. Fin 2015, alors qu'il recherchait des jeunes acteurs amateurs susceptibles de tourner dans une web-série, il leur aurait demandé de poser nu et de se masturber devant la caméra. Dans un premier temps, le parquet avait considéré qu'il n'y avait pas d'infraction, puisqu'aucun des plaignants n'aurait subi de contraintes ou de pression. Une lecture des faits contestée par les parties civiles, qui décrivent Jean-Marc Morandini comme un prédateur sexuel et un manipulateur. L'animateur reste par ailleurs mis en examen dans un autre dossier, pour corruption de mineurs. Il est soupçonné d'avoir formulé des propositions sexuelles à des adolescents sur Internet.
Laurent Doulsan, une information judiciaire ouverte par le parquet de Soissons. La collision hier après-midi entre un camion et un autocar sur l'autoroute A4. Le chauffeur routier est toujours en garde à vue. Il avait utilisé son portable quelques secondes avant l'impact. L'autocar transportait des enfants d'un centre aéré. Il était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence pour un pneu crevé. Trois de ses enfants restent hospitalisés, mais leurs jours ne sont pas en danger. Les Nations Unies demandent aux instances électorales brésiliennes de permettre à Lula de se présenter à la présidentielle. Communiqué aujourd'hui du Comité des droits de l'homme de l'ONU, Lula qui est actuellement emprisonné pour corruption et la loi brésilienne ne permet pas en théorie aux personnes condamnées de se présenter. Le Parti des travailleurs a pourtant déposé son dossier pour le scrutin prévu à l'automne. Donald Trump reviendra à Paris pour les cérémonies du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Le président américain a fait savoir que c'était pour lui un plan B. Il aurait préféré l'organisation d'un défilé militaire à Washington, mais il accuse la municipalité de réclamer un montant trop élevé pour le mettre en place. Nathalie Loiseau représentera la France demain à Gênes, cérémonie religieuse en mémoire des disparus du pont effondré, 38 morts dont 4 jeunes français. La ministre des Affaires européennes assistera à cet hommage qui réunira le président italien et plusieurs membres de l'actuel gouvernement italien. Les secours fouillent encore les décombres ce soir à la recherche de 5 personnes toujours portées disparues. Cet après-midi, c'est en la cathédrale de Poitiers qu'une cérémonie était organisé. Des centaines de chefs cuisiniers saluaient la mémoire de Joël Robuchon, mort la semaine dernière. Il était originaire du Poitou, un grand cuisinier universel, symbole du travail de la main. Voilà comment l'a présenté le chef landais Michel Guérard. Un coup d'œil rapide sur les terrains de la Ligue 2 de football. Quatrième journée, une demi-heure de jeu dans 8 rencontres ce soir. Sochaux a ouvert le score face à Brest, tout comme le Gazélec Ajaccio contre Grenoble, un partout entre Lorient et Valenciennes, tandis qu'à 20h45, le coup d'envoi sera sifflé à Reims. Les Champenois reçoivent l'Olympique Lyonnais. Là, ce sera la deuxième journée de Ligue 1 de football.
20h, 21h, les informés.
Guillaume Caour.
La suite des informés de France Info avec Jade Zahab, essayiste et président du Parlement des étudiants, Flore Santisteban, qui est maître de conférence à Sciences Po Paris et chercheuse au CEVIPOF, Étienne Girard, journaliste politique à Marianne, et Virginie Lepetit, chef d'édition à Courrier International. Avec ce débat que nous allons ouvrir maintenant avec cette fin de semaine tragique en Italie où le viaduc de Gênes a tué au moins 38 personnes. Fin d'une semaine hautement électrique aussi du point de vue politique, puisqu'il y a quelques minutes, on a appris que Rome avait fermement engagé la procédure de révocation des concessions autoroutières de la compagnie Autostrade, qui avait donc cette portion de l'autoroute A10. Mais là, il semblerait qu'ils perdent toutes les concessions qu'ils ont en Italie. Est-ce que le gouvernement populiste, qui a été soumis donc à peut-être sa très grosse épreuve, est-ce qu'il est à la hauteur, Virginie Lepetit?
Alors, il réagit comme un gouvernement populiste le fait, c'est-à-dire en mettant en scène l'émotion et l'indignation, et là en cherchant et en trouvant un coupable. Et donc c'est la compagnie qui exploite les autoroutes, c'est le coupable. Sauf que non, enfin il y a des politiques de mise en œuvre des grands travaux qui avaient été demandées par un certain nombre de responsables de la Ligurie, qui n'ont pas été votées pendant des années. Il y a eu des mises en garde. Donc la société d'exploitation autoroutière, elle a certainement une part de responsabilité, mais elle n'est certainement pas toute seule. Donc oui, enfin moi je trouve qu'ils réagissent d'une façon finalement assez attendue, dans la mesure où ils cherchent immédiatement un coupable, et en tout cas ils se délestent de toute responsabilité.
Jadab.
Oui, vous disiez ils mettent en scène l'émotion. Alors moi, je pense que ce gouvernement n'est pas à la hauteur à deux titres. Premièrement, oui, il y a une émotion, mais on a vu des images de Monsieur Salvini, qui est ministre de l'Intérieur, qui célèbre.
C'est pour ça que je parlais de mise en scène.
Voilà, et je trouve que c'est très qui était un dîner devant les partisans de la Ligue le soir même
en Sicile.
Voilà, qui a été donc informé de l'effondrement de ce pont et qui maintient son dîner. Ma foi,
il est ministre de l'Intérieur. Voilà, un dîner numéro 2 du gouvernement.
Exactement, un dîner où on le voit très détendu. Je trouve. Ces images très graves. Parce qu'il y a une situation dramatique aux portes de chez nous. On est touché parce qu'on s'identifie, on se dit ça peut se passer chez nous. On a un ministre de l'Intérieur qui ne prend pas la mesure de ce qui se passe. Je trouve que moralement, c'est très grave et c'est une très grave faute politique. Et ensuite, sur le fond, si je peux me permettre très rapidement, en disant ensuite que c'est la faute de l'Europe, etc., là, je pense qu'on voit l'incompétence des dirigeants populistes qui tout de suite trouvent l'Europe comme étant le responsable de cette situation-là. Je suis très triste pour le pays, pour l'Italie, mais nous avons la triste démonstration de ce qu'est un gouvernement populiste.
Virginie.
Et sur le comportement de Matteo Salvini, le jour de la catastrophe, il tweet énormément, hein, et il n'a eu de cesse de tweeter « Oui, c'est triste, une journée triste comme aujourd'hui, etc. » Mais une nouvelle positive. Le bateau Aquarius ira à Malte et les migrants seront répartis entre l'Espagne, la France, etc. Et à plusieurs reprises dans la journée, c'est « Oui, c'est triste, mais on a de bonnes nouvelles aussi. »
Et finalement, peu comme si le drame de Gênes était une anecdote.
Oui, ou en tout cas, n'oubliez pas l'action du gouvernement. Et visiblement, ça a été assez contre-productif. Les réactions étaient, et à juste titre, très négatives sur ces tweets-là.
Étienne Girard.
Oui, en réalité, Matteo Salvini, on a l'impression qu'il cherche à faire du Trump. C'est-à-dire, je ne m'excuse pas, quoi qu'il arrive, je persiste et je signe, et je cherche des boucs émissaires. Alors, on a eu la concession autoroutière, effectivement, on a eu l'Europe également.
Oui, l'Europe, pour qu'on soit précis, en fait, il a reproché à l'Europe sa politique d'austérité qui aurait empêché de faire tout un tas de rénovations, etc. Vous faites nom de la tête, vous n'êtes pas d'accord avec ça.
Non, c'est tout à fait exact.
Ouais. On est bien d'accord qu'avec un tel raisonnement, on peut reprocher n'importe quel fait divers à l'Union européenne. En réalité.
Mais est-ce que c'est vrai que la politique d'austérité a empêché de faire ces rénovations?
Non, absolument pas. La politique d'austérité pèse sur le budget italien, reste que dans le budget dont dispose le président du Conseil italien, il y avait tout à fait l'argent pour réaliser ces grands travaux. Donc c'est un choix.
Je crois même qu'il y a même des subventions européennes qui ont été débloquées, des milliards d'euros sur 6 ans pour pouvoir justement rénover les autoroutes.
Absolument, mais c'est un mauvais argument, mais il y a un côté pavlovien dans la rhétorique de la Ligue et de Salvini. C'est-à-dire, dès qu'il y a un problème au gouvernement, on implique l'Europe, c'est de la faute à l'Europe. En réalité, dans ce genre de faits divers, il y a deux choix. Et le gouvernement aurait pu se comporter en réconciliateur, solennel. Et on a bien vu que, oui, il n'était pas forcément à la hauteur d'un homme d'État, Matteo Salvini, puisqu'il a, il choisit l'invective et le cynisme même avec ce fameux dîner.
Mais s'il vous entendait, il dirait, ça prouve bien que j'ai raison, les élites sont contre moi.
Bah bien sûr. Bien sûr. Et cette recette porte ses fruits aux États-Unis. Donc pourquoi ne pas l'essayer en Italie? C'est un peu ce que se dit la Ligue à l'heure actuelle, d'autant plus que on l'a pas encore évoqué, mais son principal partenaire est dans une position très délicate.
Alors voilà,
puisque le mouvement 5 étoiles s'est prononcé contre les grands travaux.
Et notamment celui-ci depuis... du contournement de Gênes pour soulager ce viaduc.
Oui, ils ont même pas l'excuse de dire on n'avait pas abordé ce viaduc en particulier.
Mais eux, ce qu'ils disent, c'est, vous voyez, ça prouve bien que les grands travaux, c'est une absurdité.
Oui, peut-être, sauf que s'il y avait eu des travaux, les travaux de rénovation, je rappelle que dès 2016, il y a un rapport qui pointait la fragilité et les erreurs de calcul sur lesquelles était conçu ce pont-là. Donc le problème était identifié et c'est un choix politique qui a été fait de ne pas le réparer.
Mais bien avant, en 2012 déjà, il y avait des gens qui réclamaient des rénovations ou une alternative, donc la Gronda qui aurait été le contournement de la ville de Gênes, enfin le contournement qui permettait de ne pas passer par ce viaduc, et Beppe Grillo. C'est rangé, le leader et le fondateur du mouvement 5 étoiles.
Originaire de Gênes,
s'est rangé du côté des No Gronda, donc un mouvement populaire, en disant c'est une fable, l'effondrement du viaduc Morandi. Ça a été qualifié de fable.
Est-ce que cette attitude aura une conséquence électorale et une conséquence sur l'image du gouvernement? On va évoquer encore quelques instants cette situation politique en Italie, juste après l'info de 20h40. Augustin Rivé.
Le Brésilien Lula doit obtenir le droit de se présenter à l'élection présidentielle d'octobre. C'est l'avis du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, avis émis ce vendredi à Genève. Alors que Lula est toujours emprisonné pour corruption, la loi brésilienne interdit à une personne condamnée de se présenter au scrutin. Le Premier ministre espagnol appelle à l'unité nationale contre le terrorisme. Discours à Barcelone un an jour pour jour après l'attentat des Ramblas. 14 morts renversés par une camionnette, plus une 15e victime tuée pour s'emparer de sa voiture. L'attaque avait été revendiquée par Daesh. Demain, l'Italie rendra hommage aux 38 morts de l'effondrement du pont de Gênes. Une cérémonie religieuse est prévue dans la ville en présence de la ministre française des Affaires européennes, Nathalie Loiseau. 4 Français figurent parmi les victimes et 5 personnes sont toujours portées disparues. Une agression au couteau cet après-midi dans le tramway de Montpellier. 2 hommes ont été blessés, l'un à la cuisse, l'autre au thorax. Leurs jours ne sont pas en danger. Un suspect a été arrêté. On ne connaît pas ses motivations. Une information judiciaire ouverte dans l'Aisne. Le chauffeur du camion hier soir utilisé son téléphone juste avant de percuter l'autocar stationné sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A4. Autocar d'un centre aéré, 3 enfants sont toujours hospitalisés. Le conducteur du camion est maintenu en garde à vue. Et puis l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, mis à pied par son club avant un probable licenciement, sanction pour s'être emporté hier face à la presse contre une décision de la direction de l'équipe de football. Gustavo Poyet n'a pas apprécié que l'un de ses attaquants soit transféré à Montpellier sans son accord.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Guillaume Caour.
Les informés de France Info avec Virginie Lepetit, Flore Santisteban, Étienne Girard et Jade Zahab. Alors nous avons évoqué justement en Italie les conséquences politiques de la catastrophe de Gênes avec le mouvement 5 étoiles qui partage le pouvoir, qui s'est toujours opposé aux grands travaux et qui contestait le risque d'effondrement du viaduc. Vous avez aussi Matteo Salvini, le numéro 2 du gouvernement, qui était en Sicile en train de faire la fête mardi soir, le jour où le viaduc s'est effondré. Mais finalement, vous nous disiez, Étienne Girard, qu'il se comporte comme Donald Trump. Donald Trump, tout cela, ça lui réussit, ça glisse sur son électorat. Est-ce que finalement, vous pensez que tout cela aura des conséquences sur l'électorat de ce gouvernement en Italie ?
C'est difficile à dire, c'est difficile de prévoir les conséquences à moyen terme de ce drame et de la réaction de ces responsables-là. Ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas faciliter sa crédibilité auprès de l'électorat modéré. Cela dit, depuis qu'il est ministre, Matteo Salvini campe sur des positions extrêmement radicales et pourtant il gagne dans les sondages des points de popularité impressionnants. Et donc cette stratégie de cliver, d'invectiver, de chercher des ennemis, de chercher des boucs émissaires, pour l'instant elle est payante. C'est en cela qu'on peut
pas... Parce qu'il se comporte comme s'il était en campagne.
Tout à fait. Et mais c'est en cela qu'on peut pas écarter la possibilité que ça que ça continue de marcher et que sa réaction, que sa réaction à ce qu'on lui reproche, c'est-à-dire d'avoir fait la fête le soir du drame. Alors il dit c'est moi j'ai pas fait la fête, j'ai continué mon programme. Et ceux qui devraient se sentir coupables, c'est les précédents dirigeants qui n'ont pas fait les grands travaux. On peut pas écarter le fait que ça prenne dans l'opinion.
Virginie Lepetit.
En fait, jusque-là, il invectivait, il était extrêmement violent et clivant sur des sujets politiques qui étaient précisément les sujets de campagne, les sujets sur lesquels il a été élu. Là, on parle de quelque chose qui, symboliquement, va être un deuil national. Être clivant là-dessus, c'est quand même très dangereux. Enfin, on peut pas prédire, hein, effectivement, mais c'est, pour moi, c'est quand même deux choses extrêmement différentes. Mais...
On va conclure sur ce sujet-là, Flore Santi-Stéban.
Oui, alors moi je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, en particulier sur la pratique du pouvoir de Matteo Salvini, sur les conséquences d'un gouvernement national populiste, parce que c'est de ça quand même dont il s'agit. Et effectivement, ça peut paraître anecdotique ces photos, cette fête, etc., mais ça l'est pas du tout, parce que on voit une forme d'amateurisme, un manque de hauteur qui choque. Et alors, est-ce qu'il a raison ou pas d'être clivant sur ces sujets? Là, je ne sais pas, mais en tout cas, on a l'impression que Matteo Salvini est le Premier ministre ou le président du Conseil italien. Enfin, il a totalement...
Il occulte totalement, le président du Conseil.
Le président du Conseil et tous les autres. Donc, bon, voilà.
Qui s'appelle, rappelons-le, Giuseppe Conte. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, puisque finalement, Salvini occupe tout l'espace. La politique, alors là, nous avons parlé de la politique italienne. Je voudrais qu'on prenne quelques instants pour parler de ce fait politique assez inattendu en France. Libérons Paris. Alors, Libérons Paris, vous allez en entendre parler dans les prochains mois, puisque c'est le nom du mouvement, premier mouvement qui se présente au municipal à Paris. Et c'est un mouvement initié par Marcel Campion. C'est un forain qui n'a pas digéré que la maire Anne Hidalgo lui interdise le marché de Noël des Champs-Élysées, ainsi que la Grand Roue Place de la Concorde. Et donc, il déclare la guerre à la maire de Paris sur son terrain, les élections municipales. Il assure avoir une tête de liste pour tous les arrondissements. Est-ce que vous le croyez, Marcel Campion?
Alors,
Flore Santi-Stéban.
Sur cette question...
C'est un homme de bluff, quand même.
C'est un homme de bluff, il est connu pour ça, mais surtout, on voit encore une nouvelle fois l'expression de la guerre qui se joue entre lui et la maire de Paris, guerre qui est également instrumentalisée d'une certaine façon par le gouvernement, parce qu'il faut quand même peut-être revenir sur ce qui s'est passé sur le marché de Noël.
Cet été, le marché de Noël qui a été attribué finalement, qui a trouvé une place dans le jardin des Tuileries, qui dépend du musée du Louvre, qui dépend de l'État.
C'est ça. Donc, on lui avait retiré sa concession. Donc, Anne Hidalgo pensait avoir gagné la partie. Et puis, miraculeusement, effectivement, on lui a attribué cette concession, en tout cas, ce droit d'usage et d'occupation dans les jardins des Tuileries.
Et donc, vous pensez qu'il peut être instrumentalisé par l'État en lançant cette liste pour affaiblir Anne Hidalgo ?
C'est beaucoup dire. En tout cas, par certains hommes politiques, oui, qui ont intérêt, effectivement, dans la perspective des élections municipales, à faire converger les luttes contre Anne Hidalgo.
Quitte à ce qu'il se retire après,
oui,
ou qu'il s'allie,
ça, exactement. Mais ça fait
qu'en tout cas, ils lui mettent un peu de peau de banane, quoi.
C'est ça.
Étienne Girard.
Oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire Flore. Je ne crois pas une seule seconde qu'en 2020, aux élections municipales à Paris, on aura des listes de Marcel Campion. Marcel Campion, c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière sur son pouvoir de nuisance. Il a commencé sa carrière, faut le rappeler, en organisant une fête foraine sauvage aux Tuileries parce que la mairie de Paris en 1985 voulait l'empêcher de faire sa fête. Et c'est comme ça qu'il a obtenu des concessions sur des années. Donc Marcel Campion, là, il a senti qu'il y avait un avantage à pousser. Il a senti qu'il y avait un coin entre la mairie de Paris, représentée par Anne Hidalgo, et l'État qui a des visées. De l'État Emmanuel Macron qui a des visées, la République en marche qui a des visées sur Paris, par l'intermédiaire de Benjamin Griveaux. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il agite la menace de liste pour entrer dans le jeu et pour devenir une force de négociation avec les opposants à Anne Hidalgo, c'est-à-dire la République en marche sur le mode les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc ce qui est probable, c'est qu'on ait un deal à l'ancienne, très ancien monde, bientôt, entre la République en marche, l'État sans doute, et Marcel Campion, sur le mode pas de liste, une bienveillance vis-à-vis des listes En Marche au municipal. Et en échange, Marcel Campion et ses amis forains auront un très joli marché de Noël tous les ans au Louvre ou ailleurs, et peut-être d'autres fêtes dans des lieux extrêmement prestigieux.
Voilà pour ce détail de calcul politique. Merci, c'est parfait.
Je vous en prie.
Virginie Lepetit, quelque chose à ajouter ?
Non, moi je crois absolument pas que Marcel Campion aura effectivement des listes municipales, mais en tout cas c'est quelqu'un qui manie extrêmement bien la communication et, ouais. Et il a peut-être des leçons à donner à d'autres sur la façon de entrer en lice.
Mais ça va peut-être accélérer un peu la marche, parce que jusqu'à présent, on a un certain nombre de candidats non déclarés qui reniflent le terrain, qui disent oui, peut-être, mais on réfléchit, on analyse les desiderata des Parisiens, etc. Et puis finalement, personne n'y va pour le moment, c'est peut-être un petit peu tôt, mais est-ce que vous pensez que ça peut accélérer un peu le mouvement Jadab ?
Accélérer le mouvement, je suis pas certain. En tout cas, sans doute qu'on va commencer à s'intéresser dès maintenant, en tout cas, à la situation du terrain et à voir quelles sont les envies, les besoins des Parisiens. Vous disiez, Marcel Campion, c'est un bon communicant. Il a le sens de la punchline. Hein. Il a dit qu'Anne Hidalgo avait transformé, je cite, une ville enchantée en une ville en chantier. Nous dit la personne qui installe dans un certain nombre de villes partout en France des routes, voilà. Donc en termes de chantiers dans les villes, bon, ça c'était pour l'anecdote. Et je suis allé me renseigner sur son éventuel début de programme, et la seule mesure qu'il donne un peu partout, c'est concernant les berges sur Seine qui ont été piétonnisées par Anne Hidalgo. Il veut les laisser piétoniser le week-end et les rendre aux automobilistes la semaine. Ça me semble très 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 faible pour le moment. Ça montre simplement qu'il n'y a pas derrière de vrais projets pour Paris et que voilà, c'est avant tout un coup politique. Néanmoins, quand on s'intéresse à sa situation dans Paris, on voit qu'il a tenu depuis un certain nombre de mois déjà des réunions publiques. Je l'ai découvert, je l'avoue, des réunions publiques dans les quartiers pour essayer de sans doute co-construire. Il a quelque chose de très en marche, hein, ce monsieur Campion, sur la société civile qui veut faire.
Fleur, c'est bon pour conclure.
Oui, alors simplement, je rebondis sur ce que vient de me dire mon co-religionnaire. Je suis pas sûre que les voies sur berge, ça peut paraître anecdotique, mais je pense pas que ce soit un sujet si faible ou si peu important que ça.
Bah, c'est important pour les banlieusards.
Oui, pour les banlieusards, et puis pour les automobilistes en général, qui, je vous le rappelle, ont promis, en tout cas pour ce qui est de leurs représentants, à Hidalgo, d'avoir sa peau. C'est un lobby très puissant et les automobilistes votent.
Dans quelques instants, nous allons fêter un anniversaire d'une star de la chanson. Il s'agit de Madonna, qui donc fêtait ses 60 ans hier et qui s'est fait voler la vedette par Aretha Franklin. À tout de suite pour la suite des informés. 20h50, toute l'info, Augustin arrivé.
Les lumières s'éteindront demain soir autour de plusieurs monuments de Rome. Journée de deuil national en Italie en mémoire des 38 victimes de l'effondrement du pont de Gênes. Une cérémonie religieuse sera organisée dans la matinée, célébrée par l'archevêque de Milan. Le président italien sera présent, mais toutes les familles des victimes n'ont pas souhaité y assister. Un adolescent australien de 16 ans a réussi à pirater les serveurs informatiques du géant Apple. Le pirate a été interpellé, il reconnaît les faits. Le groupe assure qu'aucune donnée personnelle d'utilisateur n'a été volée. Une enquête internationale a été lancée par le FBI. Les obsèques de Joël Robuchon, c'était la semaine dernière dans l'intimité, mais un hommage était rendu à Poitiers aujourd'hui par plusieurs centaines de chefs cuisiniers. Cérémonie en la cathédrale de cette ville dont il était originaire, Joël Robuchon avait 73 ans. Les députés pakistanais ont choisi un ancien champion de cricket comme Premier ministre, il s'appelle Imran Khan. Il était soutenu par certains généraux de l'armée, il porte un programme orienté sur la lutte contre la corruption et contre la pauvreté. La Turquie ne cède pas devant les menaces de nouvelles sanctions américaines. Ankara a refusé aujourd'hui de libérer le pasteur américain Andrew Brunson. Il est assigné à résidence en Turquie depuis 2 ans, accusé d'espionnage et de terrorisme. Et puis le début de la deuxième journée de Ligue 1 de football ce soir, Reims contre Lyon. On en est à 5 minutes de jeu à peine et pour l'instant 0 partout entre les deux équipes.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Guillaume Caour.
C'était donc hier, Madonna fêtait ses 60 ans, on devait en parler beaucoup, et puis finalement, Aretha Franklin est décédée, et c'est elle qui est devenue la star hier. Madonna, 40 ans de carrière, qu'a-t-elle contribué à changer dans la société ? Mathieu Bondoloni a fait le test, même de loin, même de manière approximative, nous connaissons tous quelque chose de Madonna.
Si je vous montre cette vidéo, est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Je dirais Madonna.
Oui, Madonna, oui.
Vous la connaissez ?
Bah, pas personnellement, mais de nom, oui.
C'est quoi les morceaux qui, pour vous, symbolisent Madonna? Je vous en ai fait écouter un. Mais...
Je connais qu'un titre. Hein. I like a Virgil. Virgin, qui est Virgin, j'en sais rien.
Like a Virgin, c'est comme une vierge, en fait. Parce que la suite de la parole, c'était « touch for the very first time », « touché pour la première fois ». Ce qui était des connotations, on va dire, un petit peu... Voilà.
D'accord, oui.
Bon. Like Virgil, Virginie Petit, Étienne Girard, Fleur Santisteban et Jade Zahab. Alors, qu'est-ce que vous vous retenez de Madonna?
Moi, je...
Virginie Petit.
Je retiens plus que ses prises de position publiques. En fait, l'impact qu'elle a eu avec ses clips et notamment toute la période des années 80.
Ouais, ouais.
Et il y en a deux, moi, qui à mon avis, enfin, Like a Prayer, je sais pas si ça vous parle, mais c'était ce clip où elle remettait en scène toute une iconographie catholique en mettant un saint noir au centre du clip, des croix en flammes, etc.
C'est ça, Like a Prayer.
Voilà.
Tout en
chantant des paroles qui parlent de masturbation et
de
fellation.
Il y avait une alternance de sexe et de religion, en fait.
Mais et qui avait beaucoup choqué, qui avait fait réagir. Ça passait sur MTV, qui était, faut le rappeler quand même, une chaîne de télévision prude et blanche. Et je pense que sur ces faits-là, Vogue aussi, où elle a mis en lumière des modes qui étaient des modes des boîtes gays et qui ne sortaient pas, en fait, jusque-là de la culture gay. Enfin, je pense qu'elle a contribué à mettre en lumière des choses. Et comme elle était
puissante...
Vous pensez
que ça a changé la société ou d'une manière ou d'une autre?
En fait, elle a pas... Madonna, c'est pas quelqu'un qui a des grandes idées, etc. Mais comme elle est extrêmement puissante, quand elle prend position, quand elle met en lumière quelque chose, ça touche énormément de monde. Et c'est en ça qu'elle est efficace.
Shadab.
Madonna, je pense ça a été très justement dit, elle a infusé dans la culture pop et via les. Et je retiens, moi, d'elle son sens du fait qu'elle aime choquer. Et généralement, le choc est la première phase de la prise de conscience pour éventuellement ensuite changer les façons de voir les choses. Elle disait il y a 2 ans à une cérémonie, je pense que la chose la plus osée que j'ai faite, c'est de rester et d'être encore là. Et justement, elle utilise l'extrême comme un outil pour qu'elle se met en scène pour choquer et pour effectivement essayer de faire changer les choses. Et c'est ça. Alors ensuite, évidemment, ça n'a pas été fait de manière très directe. Elle a pris position très récemment. Elle a été aux côtés des femmes à Washington qui marchaient pour les droits. Donc voilà, elle n'a pas d'idée politique, mais en ayant infusé, je pense qu'elle a, elle a beaucoup marqué et peut-être qu'elle a fait prendre conscience à certains d'un certain nombre de sujets.
Là, c'est Justify My Love, qui dépeint des pratiques de bondage. Et finalement, il y a un dénominateur commun qui revient souvent, c'est quand même le sexe chez Madonna. Et qui a tout de même réussi à réunir à la fois les influenceurs hétéros et homosexuels. Et ça, c'est quand même quelque chose de quasiment unique, finalement, parmi les personnalités. Et je vais vous faire écouter le point de vue de... Hubert Artus, il a écrit Pop Corner, il nous explique qu'elle a joué les provoques dès ses débuts finalement.
Le moment où elle apparaît, c'est l'Amérique réganienne, donc c'est une Amérique qui est encore, qui revient vers un puritanisme, ou alors vers un culte du super-héros mâle, le cinéma hollywoodien des années Reagan, Rocky, Rambo, c'est ça, et elle s'oppose à ça. Donc du coup, il faut pousser plus loin les murs du politiquement correct. Donc faut y aller, faut mettre des coups de poing, faut mettre des tatanes. Et donc ces clips vont servir à ça. C'est une façon de dire aux femmes vivez votre corps.
Étienne Girard.
Bah oui, Madonna, c'était l'emblème d'une époque, d'une génération. Mais c'était quand même un peu la rebelle.
Vous dites c'était, mais elle n'est pas morte. Hein.
Oui, oui.
Bon, c'était hier pour Aretha Franklin qu'il fallait mettre l'imparfait.
Non, vous avez raison de le rappeler.
C'est juste bon, c'est 60 ans.
Elle est plutôt près de la fin de sa carrière que du début, même si.
Je suis dur, en effet. De sa carrière. On en a pour 20 ans encore. Madonna a dansé sur scène.
À l'époque où elle a émergé. C'était l'emblème d'une génération. C'est peut-être la première. On dit d'elle que c'est la reine de la pop. C'est peut-être la première pop star à avoir eu un tel impact sur les vêtements, sur la façon de se mouvoir.
Et on conclut, de sa
génération.
Oui, et puis surtout Madonna, je dirais, elle a en commun avec Aretha Franklin de représenter l'autre Amérique, celle qui est pas Trump justement, celle qui défend les minorités, celle qui défend les femmes, celle qui défend la diversité, celle qui défend une certaine vision de la liberté.
Merci à tous les quatre. On va regarder les unes. Virginie Lepetit pour Courrier International.
Climat, il n'est pas trop tard pour agir.
Et Étienne Girard pour Marianne.
Un peu sur le même thème, on s'intéresse au réchauffement climatique, vraie menace et info bidon.
Ah oui, vous êtes sur la même thématique. En effet, c'est d'actualité. Merci beaucoup à tous les quatre. Également Flore Santisteban et Jade Zahab d'être passés dans les informés ce soir. Merci. À partir de lundi, vous allez retrouver Jean-François Aquili. Je vous souhaite une très bonne fin d'été. Dans un instant, les infos et la météo.